Chapitre 12. Extrait du New York Times du 31 janvier 1961.
Moi et quelques autres journalistes accrédités par Washington débarquons à Cap Canaveral. Nous avons pour mission de couvrir l'événement le plus médiatique du moment. C'est le jour de notre arrivée, le 30 janvier, que le choix final est fait. Il s'est porté sur un chimpanzé nommé Ham. Ham a été préféré aux cinq autres parce qu'il s'est montré le plus allant et de meilleure humeur tout au long des derniers réglages. Sa doublure, si problème majeur, sera une guenon appelée Mini. 20 heures avant la mission, nous sommes convoqués à une énième conférence de presse. C'est le commandant en chef, Saul Shapiro, qui nous explique le déroulement des opérations à venir. Les deux astrochimps sont mis à la diète afin d'éviter qu'ils ne fassent leurs besoins en plein vol. À H-4, ils sont habillés par leur soigneur, Silas Potter. Leurs combinaisons, que nous avons eu le privilège de voir, sont bardées de capteurs biologiques qui permettront de vérifier minute par minute leur fonction vitale. À H-1h30, Ham est placé dans la cabine Mercury. C'est lui qui va s'envoler. Mini, elle, reste à terre. Article de Cyrus Leo, Sulzberger. Même jour, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Nous savons depuis le départ de Dad que la NASA filmera toute l'opération et la transmettra en direct à la télévision. Mais les journaux ont attendu le 20 janvier pour l'annoncer au grand public. On a pu lire, dans chaque manchette de la côte Est à la côte Ouest, qu'après la retransmission en direct, elle aussi, de l'investiture de John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche, la mission Mercury Redstone 2 serait l'événement le plus vu et commenté de tous les temps. Pour l'occasion, le 30 janvier, Lucie revient de San Francisco. Elle est bronzée, encore plus belle que jamais. Au détour d'une question anodine posée par Mam, elle nous apprend que les Borgman vont bien. Pas un mot sur Jessie. Je ne demande rien. Je crois deviner qu'elle se fréquente. Qu'importe. De toute façon, une seule chose me préoccupe maintenant. Ne pas louper la retransmission. Notre télé est allumée depuis ce matin. Et à cause du décalage horaire, je garde un œil rivé sur ma montre. Soudain, on voit sur l'écran noir et blanc de notre téléviseur que la base est en pleine effervescence. J'espère apercevoir Ham. En vain. Le lancement est repoussé une première fois, une fois encore, et une autre. Ces retards sont liés à des problèmes techniques. Nerveux, je me ronge les ongles. Enfin, nous voyons Dad sortir de l'entrepôt S avec Ham. Il est vêtu de sa combinaison. Deux hommes, dont Silas, viennent le prendre pour le harnacher dans sa mini-cabine. Il regarde partout, mais semble serein. Alors que la caméra reste fixée sur son expression impassible, les commentaires nous apprennent que le long de la trajectoire de la fusée, la NASA a réparti 8 bâtiments de marine, des navires de sauvetage, des hélicoptères et des avions de reconnaissance. Tous se tiennent prêts à intervenir. Finalement, à 11h55, le compte à rebours pour la mise à feu du réacteur est déclenché. Assis sur le canapé, entre Mam et Lucie, je me crispe. Le 31 janvier 1961, Ham a 3 ans et 7 mois.
At last, early in 1961, the blue-gray space capsule is ready to take its place atop the launching rocket. The flight plan calls for the Redstone to propel the chimpanzee into the heavens.
Même jour, Cap Canaveral.
Tout se joue entre Minnie et moi. Il faut qu'ils me prennent, moi. Je suis un peu stressé, mais je ne montre rien. Ils ont oublié de nous donner à manger en plus. Minnie supporte moins bien que moi la faim et commence à remuer dans sa cage. Puis le père de Josh rentre dans la pièce et ordonne de me préparer. C'est moi qui ai gagné. Quoi, je ne sais pas, mais j'ai gagné. Silas m'habille avec ma combinaison habituelle. Dire qu'au début, je ne la supportais pas. Maintenant, je me sens bien dedans. Je crois que je vais encore devoir jouer avec les leviers et les lumières. J'aime bien ce jeu. Je vais encore battre les blouses blanches. Ainsi paré, on m'installe dans la petite cabine. C'est bien ce que je pensais. Je reconnais les écrans et les manettes. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi avec un appareil bizarre auquel sont rattachés plein de câbles. On dirait qu'il me regarde à travers. mais je ne vois pas son visage. Je m'en désintéresse vite. Quand est-ce que le jeu va commencer? Il faut encore qu'il ferme le couvercle. C'est fait. Je suis prêt. Pfiouh ! C'est quoi ce bruit ? Silence absolu. Lumière à gauche. J'abaisse le levier. Lumière à droite. Levier droit. Gauche. Centre. Centre. Droite. Gauche. Ah, je n'ai pas perdu la main.
And Ham is on his way.
Chapitre 13. Le vol depuis Santa Fe, Nouveau-Mexique.
D'après les commentateurs, le vol est marqué par quelques petites pannes sans gravité. Ham semble résister aux pressions et aux fortes températures grâce à la coque dans laquelle on a pris soin de l'enfermer. Il répond à chaque stimulus, lève et abaisse les leviers, comme il a appris à le faire tout au long de ses heures d'entraînement à Holoman. Lorsqu'un des spécialistes annonce que la fusée l'a propulsé dans l'espace pour un vol suborbital culminant à 250 km d'altitude, j'arrête de respirer pendant quelques secondes. Lucie m'assène un coup sur la cuisse.
« Hé, tu vas pas t'évanouir, hein ?»
J'essaye de sourire, mais je suis terrifié à l'idée que Ham puisse mourir ainsi, tout seul, en orbite. À 12h, heure locale, la capsule amerrit. Mais où ? Chez les commentateurs, la panique monte. Ham a été envoyé plus haut que prévu, et donc fatalement est retombé au-delà du périmètre pressenti. Personne ne sait où il est. La flotte pourtant présente est incapable de repérer la capsule. Je fais les 100 pas dans le salon, invective les hélicoptères qui tournent au-dessus de l'océan, mais demeure infichu de capter les signaux électroniques émis par la capsule. Cela dure encore 24 minutes, les plus longues de toute ma vie. Enfin, à 12h24, un avion de l'Air Force repère la capsule Mercury qui s'enfonce dans la mer. Un hélicoptère est immédiatement dépêché. Il est temps. La coque contenant Ham est élitreillée jusque sur le pont du navire qui patrouille. Personne ne sait si Ham est en vie. Depuis une heure, il ne répond plus aux stimuli. Mes mains sont blanches, à force de se serrer. Une caméra filme les militaires qui s'approchent de la capsule et ouvrent la porte. Plusieurs centaines de litres d'eau en sortent. Si Ham a résisté à la pesanteur, il est bien possible qu'il se soit noyé. Mam et Lucie retiennent leur respiration. Moi, je ne sais plus si je respire encore depuis l'ouverture de la porte. Soudain, un soldat fait le geste que nous attendons tous. Pousse vers le haut, efface caméra. Ham est vivant. On le sort de la chambre pressurisée. Je hurle de joie et fais des bonds. Je veux que Ham m'entende depuis les Bahamas où il vient d'être repêché. Il a réussi ! Il a réussi ! Je prends Lucie dans mes bras, la fais tourner, puis j'embrasse Mam. Elle me laisse faire. Elles aussi sont heureuses. La caméra tourne toujours. Je vois mon père faire un geste que je n'oublierai jamais. J'ai la gorge qui se noue, tandis que le commentateur précise, sur le plan qui me bouleverse, que Ham, mon champion, a passé en tout 16 minutes et 39 secondes en orbite, dont presque 7 en apesanteur. Le vol in situ. Ça dure longtemps aujourd'hui, les lumières. Il fait chaud en plus. Et je commence à m'ennuyer. Je n'ai plus envie de jouer. J'ai envie d'enlever ma combinaison. Ils l'ont bien serrée, en fait. D'habitude, quand je bouge comme ça, Silas vient m'ouvrir. Mais pas là. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Aïe. Elle va pas. J'ai mal au nez. C'est chaud? Et ça coule sur ma bouche. Ça a un goût de fer. Burk. Ah. Enfin. J'entends du bruit. Je cogne contre la coque avec mes mains. Je vois la lumière du jour. Et aussitôt le père de Josh. S'il est là, c'est que Silas a eu un problème. Je veux sortir et je lui tends les bras. Il me soulève. C'est tout mouillé par terre. Et puis il y a encore cette espèce de gros œil noir qui me regarde. Je meurs de faim, Il doit le savoir, le père de Josh, parce qu'il me tend une pomme. Je croque dedans. Je suis affamé. Je pense à Joshua.
Chapitre 14. Le triomphe de Ham et petits changements.
Quelques jours plus tard, alors que Lucie est repartie en Californie, Dad rentre à Santa Fe. Je ne sais pas trop ce que je me suis imaginé, mais certainement pas qu'elle reviendrait seule. Ham est restée à Washington. Dad ignore quand et surtout si nous le récupérerons un jour. Je lui reproche de ne pas s'être battu pour le garder. Je lui reproche de l'avoir utilisé à ses propres fins professionnelles. Je suis en colère et je lui fais savoir. Malgré ça, je ne peux que l'écouter avec fierté lorsqu'il raconte à son équipe le triomphe de Ham. Après quelques heures passées aux Bahamas, puisque le bateau qui l'a recueilli mouillait non loin des côtes bahamiennes, Ham est rentré aux États-Unis. Il a été accueilli en héros. Les gens voulaient le toucher, le voir, tout connaître de sa vie et de son parcours. Les journalistes savaient tous qu'il tenait là une histoire sans sas. Dad brandit alors le Life magazine dont il a fait la couverture. Mais le plus dingue, poursuit mon père, c'est lorsque le staff du président Kennedy a souhaité organiser la fameuse rencontre du 15 février 1961. C'est le cliché où l'on voit Ham et JFK en train de se serrer la main qui me touche le plus. Ce petit chimpanzé, promis à une mort certaine il y a moins de 3 ans, a gravi un à un les échelons du rêve américain. J'apprends, toujours de la bouche de Dad, que Ham n'a commis que 2 erreurs durant le vol. Aucun danger apparent pour le cerveau humain à se retrouver propulsé dans les étoiles. Les astrochimps ont ouvert la voie à la conquête spatiale. Le temps passe à Santa Fe, et en avril, tout s'accélère. Je suis pris dans 7 des 8 universités de l'Ivy League. C'était ce que je voulais, quitter le Sud, et ne pas retourner à Frisco, que je laisse à Lucie. Je me donne encore un mois pour réfléchir, mais j'ai une préférence pour Cornell ou Yale. C'est en avril, toujours le 12, que le russe Yuri Gagarin devient le premier homme à effectuer le tour de la Terre. Pendant ce temps, Ham est toujours en observation au parc zoologique de Washington. Chaque jour, il subit pléthore d'examens afin de déterminer si son organisme a été modifié, s'il a grandi ou rapetissé, si son court voyage dans la stratosphère a modifié même infiniment son comportement, son caractère ou encore ses capacités. Là aussi, les réponses indiquent une réussite parfaite. Fin avril, le président Kennedy fait appeler mon père. Il lui propose un poste de conseiller suprême en aérospatial. Cette promotion soulève l'enthousiasme de ma mère. D'abord, parce que la distance entre nous deux sera réduite. Ensuite, parce que la chaleur écrasante du Sud commence à lui peser et le manque de culture à l'oppresser. Pour en parler avec elle, je sais, et je m'en amuse, qu'elle s'imagine déjeuner avec Jackie, ou, plus plausible, faire des virées shopping à New York. Moins d'un mois se passe avant que le 5 mai, Alan Shepard soit à son tour envoyé dans l'espace. Il en revient avec son arrogance légendaire. L'intérêt pour Ham s'estompe peu à peu. Les humains prennent le relais et repassent sur le devant de la scène. Quelques jours avant que je ne sois officiellement diplômé, je retrouve le corps sans vie de Scuppernong près d'un cours d'eau où il a l'habitude de se promener. Il avait disparu depuis 3 jours et mes révisions m'avaient empêché d'aller aussi loin dans ma recherche. Il a visiblement succombé à la morsure mortelle d'un serpent. J'enterre mon chien dans notre jardin. Il était mon dernier lien avec l'enfance. Le 21 juin, je reçois mon diplôme lors de la traditionnelle cérémonie estudiantine. Plus rien ne me retient au Nouveau-Mexique. C'est Cornell que je choisis. Malgré la proximité géographique dans laquelle Ham et moi nous trouvons désormais, je ne le revois pas durant toutes mes années universitaires. On le tient volontairement éloigné du public. Qu'importe. Je pressens que nous nous retrouverons un jour, bientôt.
MR2 was a significant milestone on the highway to man's flight into space.
« Chapitre 15. Le zoo d'Ashboro.
Après mes études, que j'ai réussi plutôt bien, je vais vivre quelque temps à Washington, chez mes parents. Lors de ma deuxième année de fac, Dad avait eu une crise cardiaque, mais se rétablissait petit à petit. Il avait pu compter sur Mam, qui n'avait pas quitté son chevet. Ils ont leurs petites habitudes maintenant, et même s'ils ne le disent pas, je sens que ma présence les perturbe dans leur routine quotidienne. Qu'importe. Moi aussi, je m'ennuie ferme à DC. Lorsque Dad, via un de ses contacts à la NASA, apprend que Ham vient d'être racheté par le zoo d'Ashboro en Caroline du Nord, il s'empresse de m'en parler. N'ignorant ni l'origine de ma vocation, ni l'intérêt que je porte toujours à Ham, il obtient le nom du directeur, un certain Oscar Glenn. C'est tremblant d'émotion que je l'appelle. Monsieur Glenn ?
Lui-même ?
Joshua Shapiro. J'ai appris que vous veniez d'accueillir un nouveau pensionnaire. Silence au bout de la ligne. Je poursuis. Mon père est l'homme qui a dirigé l'entraînement de Ham sur la base d'Oloman. Je connais Ham depuis que j'ai 13 ans. Il était mon seul ami au Nouveau-Mexique. Monsieur Glenn, vous êtes là?
Oui, je suis là. Quand voulez-vous venir?
Je ne m'attendais pas à cela. Je bredouille. Le temps d'acheter une voiture. Ça le fait rire et il raccroche en me disant à bientôt. Grâce à l'aide financière de mes parents, je fais l'acquisition d'un vieux Chevy Truck orange. Le lendemain, je prends la route avec la sensation de recoller enfin avec mon destin. Je roule d'une traite jusqu'en Caroline du Nord. Je suis sur un nuage. À quelques miles du zoo, je m'arrête à un diner, le Mayflower, pour manger un morceau. L'apple pie que je prends en dessert me donne une idée. Le directeur Glenn est un homme sympathique. Il se dit honoré de ma visite dans son petit zoo et sincèrement heureux d'avoir Ham comme célèbre pensionnaire. Si les nombreux visiteurs se pressent devant sa cage pour le photographier, Glenn est soucieux de son confort. Et c'est ce qu'il me raconte. Son discours me plaît. Nous échangeons encore une petite heure dans son bureau. J'essaye de ne pas paraître impatient et donc mal poli, mais c'est dur de savoir Ham si près. Cependant, la discussion que nous avons est passionnante. Sans que je m'en rende compte, il procède à un entretien d'embauche. Je ne le comprends qu'au moment où il me dit
« Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon garçon. Je suis en plein recrutement pour le zoo. Je n'ai pas encore de primatologue dans mon équipe. Le fait que vous connaissiez Ham est un plus pour moi. 50 000 $ annuels, c'est ce que je vous propose pour commencer. Vous serez logé et blanchi.
Vous voulez dire que... » Je me lève d'un bond et serre la main qu'il me tend. Reste juste à vérifier que Ham et moi sommes toujours sur la même longueur d'onde.
Chapitre 16. Réunis pour toujours.
En sortant du bureau, Glenn m'indique le chemin et me laisse aller seul au rendez-vous que j'avais fixé à Ham un matin de janvier 1961. Je suis à la fois inquiet et excité par l'enjeu. C'est pourquoi je m'efforce de me calmer en m'arrêtant devant l'enclos des éléphants et m'agenouille pour refaire mes lacets. Il ne faut pas brusquer les choses. Les questions tournent dans ma tête et une en particulier m'obsède. Et si Ham ne me reconnaissait plus ? Force est de constater que je n'ai aucun autre choix que d'aller me confronter à la réalité. Je prends mon courage à deux mains quand une voix féminine m'interpelle.
« Hey, salut ! Vous êtes le type de Washington ? Le primatologue ?»
Je tourne la tête en direction de la voix. Elle doit avoir 20 ans, la fille qui se trouve devant moi. Elle porte une salopette en toile beige, un fichu rouge retient ses cheveux bruns. Elle porte à bout de bras deux grands seaux en plastique remplis de nourriture. J'époussette le bas de mon pantalon et me dirige vers elle.
« C'est bien moi ?»
Je me remets à bégayer, comme cela ne m'était plus arrivé depuis ce fameux matin du 2 janvier 1961. Je m'appelle Joshua Shapiro, mais vous pouvez m'appeler Josh.
C'est donc vous le Chimpman ?
Allons donc. Voilà qu'elle me donne un surnom maintenant. Drôle, j'en conviens. Je souris à sa plaisanterie, et son visage s'illumine. Immédiatement, je pense qu'elle est le sosie d'Audrey Hepburn, mon actrice préférée. Je flirte.
« Vous avez arrêté le cinéma après My Fair Lady, et vous vous planquez ici, en vrai. »
Son sourire s'élargit. J'adore avoir ce pouvoir. Je crois que je suis en train de tomber amoureux.
« Bien envoyé, Josh Simpman. Moi qui pensais que les gens de Washington étaient dépourvus d'humour. Ah, c'est parce que je suis californien, madame. »
Je réplique du tac au tac. Et je confirme la rumeur. À DC, ils ont zéro humour. Sauf peut-être quand on leur raconte une blague politique, et encore.
C'est bien de le savoir, mais arrêtez de m'appeler madame. Je suis Laurel, Laurel Glenn. Je suis la fille du directeur.
Cela ne fait aucun doute, c'est le plus joli prénom que j'ai jamais entendu. Comme à son habitude, Ham provoque les choses. Il devient nécessaire que nous ayons une sérieuse discussion, lui et moi, entre Chimp et Man, entre homme et singe.
Et où alliez-vous comme ça, Laurel ?
J'allais justement rendre visite à notre ami commun. Sans plus de formalité, elle me tend un des seaux.
Si vous m'aidez à le porter, je vous montre le chemin.
Alors je lui emboîte le pas. Ham est en train de se faire épouiller par une guenon quand Laurel et moi entrons dans son champ de vision. Je connais cette démarche et cette voix. J'en reste interdit. Et mon attitude stoppe la femelle dans sa tâche. Je n'ose pas y croire. Alors c'est lentement que je me lève et que je me dirige vers les deux humains qui s'approchent de mon enclos. Pour en avoir le cœur net, je passe ma main à travers les barreaux. En face de moi, il se baisse à ma hauteur. Je reconnais son odeur. Ham tend la main. Je m'accroupis pour qu'il puisse toucher mon visage si l'on éprouve l'envie. Il est magnifique. Le poil brillant, l'œil vif, c'est un moment suspendu. Celui dont je rêve depuis 10 ans. J'entends, à la respiration de Laurel, qu'elle a conscience de vivre un moment extraordinaire, au sens littéral du terme. Et moi, je suis heureux. Heureux qu'elle soit le témoin de mes retrouvailles avec Ham. Brusquement, il pousse un petit cri. Et comme à chacune de nos premières fois, il frôle mes cheveux et caresse tendrement ma joue. Salut mon grand, je suis heureux de te revoir. Tu m'as manqué, et c'est tellement vrai. Il m'a manqué chaque jour, intensément, douloureusement. Ce sont mes premiers mots, ce que je rêvais de lui dire. Et puis je refais le geste. J'ouvre mon sac à dos, et je sors la pomme que la serveuse du Mayflower m'a donnée lorsque je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Je la lui tends. Ham la repousse vers ma bouche. J'en croque un morceau. Alors, comme si rien n'avait changé, comme si le temps n'avait pas eu de prise sur nous, comme s'il n'avait pas été le premier être vivant à être parti et revenu d'un voyage dans l'espace, comme si le monde tournait rond malgré la guerre et les misères, comme si je n'étais pas en train de tomber amoureux de Laurel, alors, comme si de rien n'était, il me prend délicatement la pomme des mains et mord dedans à son tour.
Chapitre 17, 27 septembre 2012.
J'ouvre les yeux. Je suis toujours sur le banc à Central Park. La nuit est presque tombée. Je regarde l'heure. 19h02. Ça fait presque 5 heures que je suis là, assis. Tout m'est revenu avec une telle clarté. C'est étrange, la mémoire. Je ne sais pas quoi faire ni que penser de ce que m'a annoncé Laurel. Je resserre contre moi les pans de ma veste, je me déplie. Rester assis aussi longtemps, ce n'est bon ni pour les genoux, ni pour mon dos. Je frissonne, je laisse le banc derrière moi, quitte Central Park et me dirige vers mon hôtel. J'ai une décision à prendre. Laurel m'y aidera sans doute.
Chapitre 18, 29 septembre 2012. L'idée du président.
En
Entre le moment où ma femme vient me chercher à la gare et l'appel officiel que je reçois quelques jours plus tard, je demande au moins 12 fois à Laurel de me répéter la conversation qu'elle a eue avec Allison Janney, la porte-parole de la Maison-Blanche. Je la presse de questions auxquelles elle n'a que de vagues réponses, puisque Miss Janney ne doit me rappeler que le lundi suivant, se permet-elle d'insister. Ce qui a filtré cependant est que ma formidable carrière rejaillissait sur l'Amérique tout entière, en lui faisant honneur, que mon parcours personnel continuait à s'inscrire dans l'histoire avec un grand H, et que, profitant du 30e anniversaire de la mort de Ham, le président Obama voulait marquer les esprits des jeunes gens en créant un événement inédit. Rassembler à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, 50 élèves, filles et garçons entre 13 et 16 ans, venant des 50 États, leur faire visiter le musée de l'exploration spatiale, les faire se recueillir sur la tombe de Ham et, accessoirement, m'écouter discourir pendant une heure ou deux et répondre à chacune de leurs interrogations concernant les débuts de la conquête spatiale. Autant dire, remonter à l'âge préhistorique. En résumé, je dois jouer la nounou pour 50 adolescents en leur parlant d'une époque dont ils se foutent comme de leur première couche. Il en est hors de question. Rajoutons à cela que je me suis promis, il y a des années, de ne jamais, au grand jamais, retourner au Nouveau-Mexique et surtout foutre les pieds à Alamogordo, dont j'exècre jusqu'au nom. Laurel me laisse fulminer et pester à qui mieux mieux. Et les 1749 miles? Juste la distance entre chez nous et là-bas. « Bon sang de bois, Laurel, je n'irai pas. Sois-en assuré. »« Ok, Josh, c'est toi qui vois. » Puis elle ouvre la porte de mon bureau où j'ai trouvé refuge depuis mon retour de New York. Nos trois chats, Peeble, Stand et Stone, la précèdent, n'ayant que dédain pour moi, si j'en crois la partie de leur anatomie qu'ils me montrent. Laurel étouffe un petit rire et referme doucement la porte. Cette affaire me semble plutôt mal barrée. Pour moi.
Chapitre 19. Lundi 1er octobre 2012, l'appel d'Allison Janney.
Il est 10 heures quand la sonnerie du téléphone retentit. C'est Laurel qui décroche. Je l'entends plaisanter avec son interlocuteur. Je me détends un peu, m'auto-convaincant que ce n'est pas l'appel que je redoute. Mais je me trompe, bien sûr. Laurel frappe un coup discret à la porte et entre. Je me lève pour prendre le combiné. Je commence à faire les 100 pas. J'ai toujours préféré marcher en parlant, surtout pour les appels importants. Et d'autant plus si je dois refuser une proposition qui m'est faite. Josh, c'est pour toi. C'est Miss Janney. 1000 choses me traversent l'esprit, entre le moment où je m'empare du téléphone et celui où je l'applique contre mon oreille. Monsieur Shapiro, je suis Allison Janney. Je crois que votre femme vous a déjà parlé de mon appel de la semaine dernière. Le président Obama souhaite célébrer comme il se doit, en janvier 2013, la date anniversaire de l'histoire de la conquête spatiale. Votre présence est vivement souhaitée, étant donné que vous avez très bien connu Ham. En entendant prononcer le nom de Ham, je m'accroche comme à une bouée à la poignée de la fenêtre. Je suis à votre disposition pour toute la partie organisationnelle de l'opération, monsieur Shapiro. Vous m'entendez? Allô? Monsieur Shapiro! Fait la voix inquiète de Miss Janney. Je suis là, parvins-je enfin à dire en bégayant. Laurel sent que je suis au bord du gouffre et s'approche. Elle comprend avant moi que je vais répondre oui à la demande présidentielle. C'est grâce au regard plein d'amour qu'elle m'adresse à cet instant et que j'aperçois entre mes larmes que je ne me noie pas, que j'écoute jusqu'au bout le laïus de la porte-parole de la Maison-Blanche et que je confirme ma présence le 19 janvier de l'année prochaine sur le site d'Alamogordo. Je le fais pour lui. Je le fais pour Ham.